Chapitre 9. Le lendemain, à 1h30, je sortis du bourdon sans tambour ni trompette, afin de recueillir les confidences du beau damoiseau. Il se fit attendre, et j'aurais eu le temps de me plonger dans la rêvasserie aimée de mes vieux ans, si mon cœur, ce cœur insupportable, n'avait été tout endolori. Cependant, d'ordinaire, c'était un repos pour mon esprit antique de me laisser pénétrer par la douceur, le calme des bois, de respirer les senteurs des feuilles mouillées et des mousses que mon pied foulait, de tendre l'oreille aux bruits indéfinissables de la ramée et, si je remuais, de regarder courir les lapins effrayés qui se blottissaient dans la bruyère. Mais allez donc jouir de ces petits chefs-d'œuvre de la nature quand, entre eux et vos sens, se place la détresse de ceux qu'on aime. Le capitaine Kerdulen me trouva assise sur une grosse souche, trop bien plongée dans la méditation, pour avoir vu de loin le bel officier. Il était à 5 mètres de moi quand je m'avisai de son arrivée. « Agréez toutes mes excuses, madame, je vous prie. Au moment de partir, j'ai été retenu par un officier de Saumur qui déjeunait à la Minotière. J'ai dû lui brûler la politesse pour venir ici. « Passons, passons, » dis-je en lui donnant la main. « J'étais en fort bonne compagnie dans le bois si joli. Suivons ce chemin charmant si vous le voulez bien. » Nous entrâmes dans un large sentier bordé de chênes à moitié morts et couvert de mousse à mi-hauteur. Nous marchions sur un tapis de velours. Un peu plus loin, le sentier s'élargissait en rond-point parsemé de roches couvertes de lichens variés. J'attendais paisiblement en observant, non sans malice, l'embarras du capitaine. En vérité, je n'avais nulle envie de l'aider à franchir les obstacles. Malgré moi, je revoyais des cendres noires et un frais visage un peu pâli penché sur le rêve disparu. « Mon congé expire dans 1 semaine, me dit Kerdulen, mais je ne me sens pas assez bien pour reprendre un service actif et j'espère obtenir une nouvelle prolongation de quelques semaines. « Vous paraissez en bon état, dis-je d'un ton résolu. « Oh, la mine ne signifie rien. Avec la neurasthénie, on a souvent des surprises. « Vous n'êtes pas plus neurasthénique que moi, mon cher monsieur. » C'eût été le moment de lui tendre la perche, mais je m'en gardais bien. « Et que ferez-vous de ce nouveau congé? Voyagerez-vous ou séjournerez-vous encore chez vos cousins ?» Je parlais avec trop peu d'empressement et de façon trop naturelle pour qu'il vît le piège. Il se laissa prendre à mon ton aimable et franchit le fossé. « Chère madame, vous êtes bonne, je le sais. Votre regard inspire confiance. Laissez-moi vous confier mon secret. »« Qu'en ferai-je » dis-je vivement. « Si je rencontre des difficultés, vous m'aiderez à les lever, j'en suis sûr. Vous me donnerez toujours le conseil qui me tirera d'embarras. » Pourquoi ces phrases, au lieu d'aller directement au but? Qu'allais-je dire? Je me croyais sûr de mes sentiments, et voilà que, follement, mon vieux cœur battit la chamade. Mais je cachais mon émoi sous mon air le plus marmoréen. « Je vous écoute, » dis-je en cueillant au passage un brin de bruyère qui avait oublié de défleurir. « Ah !» dit-il avec émotion, « j'aime Mademoiselle de Falibert, je l'aime tant. Croyez-vous, madame, croyez-vous que je sois acceptée? On dit que Monsieur de Falibert est très difficile, qu'il tient à de la fortune et que son intransigeance est, sinon absolue, du moins grande. » En ce moment, malgré ma souffrance déraisonnable, il me plut sans réticence. Il parlait avec un naturel, une franchise, qui abolissait entièrement la pose. « Chère Manette, elle était mieux que préparée, je le savais, mais à son âge, et même au mien, on espère toujours, je m'en apercevais, et cet espoir têtu ne cède que devant le fait accompli. » « En tout cas, » répondis-je d'un ton posé, « vos sympathies sont admirablement... »« Sympathies ? » interrompit-il avec vivacité. « Dites amour, madame, le plus grand, le plus sincère. »« Eh bien, » repris-je, « votre amour, le plus grand, le plus sincère, est admirablement placé. Cécile, jeune fille charmante, sera une femme délicieuse. »« Que je suis heureux de vos paroles !» « Oh oui, elle est délicieuse, mais comment la conquérir ?»« En vérité, vous parlez comme s'il s'agissait de travailler chez Laban pour conquérir Rachel. Quoi que vous en disiez, n'est-ce pas simple ? Monsieur de Falibert n'est pas si terrible. que M. Mascudi adresse la demande et vogue la galère. » Son air intimidé, hésitant, lui seyait si bien que mes regrets chassaient devant eux ma raison. « Hélas, reprit-il, un officier sans fortune recule toujours devant une pareille démarche. J'ai vu des camarades aller au-devant d'une cruelle déception et ce souvenir augmente mon hésitation. » Si vous reculez toujours, vous n'arriverez à rien. Les situations nettes sont dans mes goûts et il vous faudra bien en arriver à la décision dont vous parlons. Oui, je le crois, mais comment oser ? Allons, allons, il y a un Dieu pour les amoureux, vous le savez bien. Il interpréta aussitôt ma réponse en faveur de ses espoirs. Vous dites, madame, pour les amoureux, croyez-vous donc que mademoiselle de Falibert... Il s'interrompit par délicatesse et reprit « Parfois, je crois à sa vive sympathie, puis je tombe dans des doutes affreux. » « Ah, pour cela, mon cher monsieur, je ne peux rien vous dire. C'est à vous de voir, de juger, et vos alternatives de doutes et d'espoir sont les phases obligées de votre situation. Je parlais des amoureux masculins, puisque vous en êtes. » Mon ton, malgré moi, était, je le crains, un peu sec. Heureusement, la préoccupation de M. Kerdulen le rendait aveugle et sourd. De mon côté, je tremblais de laisser transpirer ma faiblesse secrète. « Je vous avoue, dit-il avec un peu d'hésitation, que j'avais pensé à autre chose. Mais mademoiselle de Falibert, dès le premier jour, m'inspira un de ces sentiments subits. « Le coup de foudre, dis-je en riant, c'est charmant la jeunesse, et que je vous comprends. La beauté de Cécile, avec cette délicieuse expression, est attirante. Attirante, c'est toujours le mot qui me vient en parlant d'elle. » Ma réponse épanouit Kerdulen, et son épanouissement provenait de différentes causes. S'il avait craint de ma part une arrière-pensée, mon opinion tranquille balayait la crainte. Plus à l'aise, il reprit cependant avec embarras « Je venais ici chercher une marraine avec la prétention de ne pas m'égarer et le premier geste a été de chercher à côté. Mais qu'importe, cette erreur n'a rien à démêler avec votre mariage qui s'accomplira en temps voulu, j'en suis convaincu. » « Rien à démêler, je ne sais. » « Rien du tout, monsieur. » Cependant, sans la présence de mademoiselle de Falibert, au Maroc, je bâtissais un roman séduisant. Le moment arrivait d'administrer un bon coup de schlag à ce jeune homme qui s'obstinait à suivre un chemin quand je lui indiquais clairement d'en prendre un autre. Roman dont le dénouement, si Cécile ne s'était pas jetée en travers, vous aurait probablement apporté une grosse déception, dis-je avec flegme. « Je n'ai pas la prétention, madame. »« Si, si, vous avez beaucoup de prétentions. Parfois même, elle vous rend agaçant et un tantinet outrecuidant. Je puis me permettre cette réflexion, car j'ai l'âge d'être votre mère, ou plutôt votre grand-mère. » Il sourit de bonne grâce, car mon ton corrigeait la leçon, et il répondit avec franchise « Ah, madame, que vous m'origéniez ou non, vous êtes toujours aimable. » Mais vous vous tromperiez en me croyant un véritable fat, moi qui déteste ce genre d'homme. » Véritable fat, non, mais vous possédez une pointe de la chose, ne le niez pas, dis-je en souriant. Elle disparaîtra dans le sérieux du mariage. La pointe est-elle si apparente? Où la voyez-vous, madame? Mais ne serait-ce que dans vos rêveries du Maroc, auxquelles vous venez de faire allusion. Croyez bien que, sans cette petite pointe, on ne dispose pas ainsi d'un cœur inconnu. » « Je ne disposais pas, madame, j'espérais. » « Eh bien, vous avez beaucoup plus d'imagination qu'une marraine qui s'amuse aux dépens des hommes enfouis dans les solitudes exotiques, mais ne se soucie pas plus d'un roman que de sa pantoufle. » Assez piqué, il me regarda du haut de sa grandeur, mais je me moquais bien de ses grands airs. Les miens le remirent à la place qu'il n'aurait pas dû quitter, et apercevant enfin son manque de tact, il s'excusa en s'embourbant un peu plus. Pardonnez-moi, madame, je crains d'avoir été déplacée par des sous-entendus qui n'étaient que l'expression de... d'un... Enfin, vous me comprenez, j'en suis certain. Je comprends et je pardonne à votre jeune fatuité. Revenons à vous. Que faire, madame? Allez droit votre chemin. Et si je suis refusée? Vous le verrez bien. Madame, comme vous y allez, dit-il étonné, car la question lui paraissant la plus importante de la terre, il n'admettait pas qu'elle fût traitée avec cette désinvolture. Que voulez-vous? Je crois à la réussite, mais rien n'est assuré, vous-même le sentez. J'ai connu un brave homme qui avait été refusé 42 fois avant d'aboutir. Votre brave homme devait être d'une laideur extraordinaire, madame. Nullement, il était fort bien. Je n'aimerais pas que semblable aventure m'arrivât, dit-il un peu rageur. Que vous l'aimiez ou non, il vous faudra bien la supporter si la destinée vous inflige ce supplice. Tenir un tel langage à un homme si sûr de produire grand effet avec sa beauté. Mais certains jours et en face de certaines gens, ma langue trotte malgré moi. Kerdulen avait repris ses airs rêveurs. M'avancer, c'est bien délicat, sans fortune aucune, car je n'ai à peu près rien, 40 000 francs et ma solde. Je sais, et j'apprécie beaucoup, beaucoup, votre simplicité en parlant de cette situation. C'est d'un cœur bien placé. Bien placé, je le crois, madame, mais M. de Falibert a des vues particulières. Néanmoins, je suivrai aujourd'hui même votre conseil. Je suppose que ce conseil est celui de vos cousins. Vous avez certainement discuté le projet avec eux. Pas encore. Ils ont deviné mes sentiments dont je ne leur ai pas parlé ouvertement, parce que je crois comprendre que, selon leur jugement, Mlle de Falibert n'est pas la femme qui me conviendrait. C'est une opinion, on peut en avoir une autre. Une femme aussi charmante et sérieuse convient toujours, ce me semble, surtout si l'amour s'en mêle. Que vous avez raison, s'écria-t-il en me serrant la main. Quand on conseille aux gens au gré de leur fantaisie, on a toujours raison. Après m'avoir accablé de remerciements, car n'étant pas méchant, il oubliait déjà mes pointes, il s'éloigna à grandes enjambées afin de lancer son cousin sous les griffes de M. de Falibert. À pas plus lent, je revins au Bourdon en méditant sur les contrastes d'une nature bonne, un peu gâtée par les succès, mais droite, jeune et simple, quand ce diable de joli visage ne s'en mêlait pas. Je trouvai Mlle de Falibert et Manette en conversation intime. Cécile, de la main droite, se tamponnait les yeux pendant que son amie lui tenait affectueusement la main gauche. Mon entrée amena un silence. « Eh bien, qu'y a-t-il donc ? » demandai-je. « Cécile, permets que je parle à Madame d'Aiglis, » dit vivement Manette, dont le visage très pâle me frappait par une expression nouvelle, faite de commisération et d'une sorte de fièvre enthousiaste. Mademoiselle de Falibert répondit d'une voix entrecoupée, « Comme tu voudras. » « Figurez-vous, madame, que Cécile avoue se savoir aimée par Monsieur Kerdulen. Elle aussi l'aime. » Sur un geste de timide protestation, Manette s'arrêta et reprit avec un demi-sourire. « Elle a pour lui, veux-je dire, une sympathie extrême et voit son bonheur dans ce mariage. »« Alors, pourquoi pleurer ? » répondis-je, plus préoccupé de la physionomie de Manette que du chagrin de Cécile. « Pourquoi pleurer ? Parce que mon père refusera d'agréer la demande du capitaine. » À une vague allusion, je sais comment il a répondu. « Oui, en ours, » dit étourdiment ma cousine. « Oh, Manette, tu me scandalises !» répliqua Cécile, nécessairement très choquée. « Pardon, ton père est excellent, je le sais, mais les Corses est un peu... Enfin, je me comprends. « Attendez avant de vous désoler, » dis-je à Cécile. « Pensez-vous que la démarche du capitaine soit prochaine ?»« Oui, il part dans quelques jours. Je ne pense pas qu'il attende plus longtemps, ou alors je me tromperai sur ses sentiments, » ajouta-t-elle avec anxiété. Il parlera, chérie, il parlera, tu verras. N'est-ce pas, madame? C'est bien votre avis? Je n'avais pas le droit de raconter ma conversation avec M. Kerdulen et répondis simplement que mon avis était exactement celui de Manette. Il sera toujours temps, Cécile, selon les circonstances, de vous désoler ou de vous réjouir. Le ton et la phrase n'étaient point aimables, je m'en aperçus trop tard à l'air étonné de la jeune fille. Bien certainement, j'avais tort d'éprouver contre elle une vague irritation. Pouvait-elle détruire son ravissant visage, sa taille élégante, sa démarche gracieuse et surtout cette expression qui attirait forcément les sympathies? Ses qualités morales diminuaient-elles parce que M. Kerdulen l'aimait? Que de fois dans ma vie je m'étais moqué des mères qui jalousaient le succès des jeunes rivales de leurs filles. Pourquoi serait-on si sévère pour les autres quand de laids mouvements naturels se produisent dans notre propre logis? Il est vrai que chez moi, ce n'était pas jalousie, mais affection. Toutefois, l'attitude de Manette me rappelant à l'équité, je voulus encourager et consoler la jeune éplorée. Ne jetez pas le manche après la cognée, cher enfant. Monsieur votre père ne s'est pas encore retrouvé en face du fait précis. Moi, je croirais difficilement qu'il ignore les sentiments de Monsieur Kerdulen et il ne l'a pas éloigné. C'est vrai, dit Cécile avec joie. Si le mariage n'est pas absolument celui que souhaite pour vous M. de Falibert, vos désirs n'en feront pas moins force de loi. M. de Falibert n'est point un père farouche. Non, non, madame, il m'aime tendrement. Mais mon père, et c'est bien naturel, parle avec son expérience, avec ses craintes pour l'avenir. Croyez-moi, attendez avec confiance. Oui, affirma Manette, toujours confiance. Quelques tiraillements n'empêcheront pas l'événement d'arriver. Seulement, il faudra soutenir ta cause et ne pas reculer au premier choc. Conseil facile à donner, mais à suivre. Quelle différence ! Répondit Cécile en hésitant. En tout cas, ne le repousse pas d'emblée. Mets-toi dans la disposition morale de suivre le conseil, il sera toujours temps de fléchir. Elle saura bien faire prévaloir les meilleurs arguments, repris-je d'un ton encourageant. Ah, dit Mademoiselle de Falibert, vous m'avez remonté toutes les deux et je vous en suis bien reconnaissante. Elle me tendit la main avec une nuance de timidité et d'embarras. Était-ce parce qu'elle devinait mon humeur secrète? Cependant, elle partit rassurée par la façon cordiale dont je lui renouvelai mes souhaits de réussite. Manette conduisit son amie à mi-chemin de la Moussée et s'attarda pour entrer, car je l'attendis longtemps avec une angoisse qui augmentait de minute en minute. Mais, toujours destinée à me causer des surprises, elle revint d'un air calme, m'embrassa, me serra la main à la briser, seule manifestation trop vive de son émotion, et me dit « Croyez-vous que M. Kerdulen prolonge inutilement cette attente? Est-il homme à tant hésiter ?» Il parle en ce moment même par l'entremise de M. Mascudier, mais je ne pouvais pas le dire à votre ami. « Ah, comment savez-vous cela ?» J'ai vu M. Kerdulen à 2 heures. Nous avions rendez-vous dans le chemin des Mousses. Racontez-moi cela, chère cousine. Je lui racontai, avec bon nombre d'omissions, mon entrevue. Vous parlez du capitaine avec plus de sympathie, il me semble, car je ne crois pas, madame, qu'il ait su vous plaire de façon absolue. Il était sous son meilleur aspect, Manette. Mon opinion sur lui est panachée, ni plus ni moins que ses contrastes et ses attitudes. « Que voulez-vous, madame ? » répliqua-t-elle d'un ton vif. « Chacune subit l'influence des circonstances. Monsieur Kerdulen ne peut pas ignorer sa jolie figure et les conséquences agréables qui en découlent. Il n'ignore pas non plus qu'aux yeux d'un père, un joli visage et ses conséquences ne suffisent pas pour fonder un foyer. » Pauvre garçon, c'est triste vraiment dans la vie de n'avoir rien ou à peu près. J'espère quand même que M. de Falibert ne mettra aucune entrave à ce mariage. Je voudrais que le capitaine et Cécile fussent heureux, je voudrais contribuer à leur bonheur. Je m'empressai de répondre, car je souhaitais paraître au diapason. Monsieur de Falibert aurait tort de soulever tant de difficultés. Il n'est pas méchant, au contraire, et son affection pour sa fille lui donnera probablement quelque souplesse. De la souplesse, monsieur de Falibert ? Et puis, il faut vivre, en cela il aura raison. Elle répéta d'un ton particulier. « Je voudrais tant contribuer à leur bonheur, ma cousine, j'en serais si heureuse !»« Malheureusement, nous ne pouvons rien, si ce n'est de formuler des vœux inutiles. »« Qui sait ?» me dit-elle posément. Elle aperçut son père dans la grande allée du jardin et me quitta subitement pour le rejoindre, me laissant supposer qu'elle se croyait assez d'influence dans la famille de son amie pour plaider avec succès la cause de Cécile. En revenant avec Geoffroy, elle s'appuyait tendrement sur lui et parlait gaiement avec la plus vive animation. La fenêtre étant ouverte, je l'entendis qui disait « Ce sera un couple presque trop beau. Il inspirerait en vérité les poètes les moins inspirés. Ne trouvez-vous pas, cher père ?»« Je suis brouillé avec la poésie, » répondit en riant Geoffroy, « et j'ignore comment, en l'occurrence, les poètes accorderaient leur lyre. » Un instant après, il me disait d'un ton chagrin « Ainsi, c'est bien fini ?»« Mais oui. » Je savais que Manette ne s'arrêterait pas sur l'irréalisable. Néanmoins, je suis étonné qu'elle prenne si bien l'événement. Son cœur n'était pas atteint. Je vous le disais, de l'attrait n'est pas un engagement de cœur. Dans la circonstance, nous étions, lui et moi, les moins raisonnables. Je le voyais à son expression et à l'acuité de mes propres impressions. « Vous avez raison, » conclut Geoffroy. « Je crois aussi que Manette est sous l'influence du soulagement qu'on éprouve en sortant d'une incertitude pénible. » En effet, à sa place, je sentirais ainsi.